David, bonjour.
Bonjour Lionel.
Alors la dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'était il y a 3-4 ans, dans ces eaux-là.
C'était au moment où on s'était rencontrés tous les deux, quoi, à peu près les premières semaines où on s'était rencontrés, quoi, toi et moi, quoi, où on a fait connaissance.
Et à ce moment-là, on avait fait une interview qui te présentait.
Oui.
Et donc aujourd'hui, on fait la mise à jour.
Actualisation fichier périmé quoi.
Alors David, que deviens-tu?
Donc depuis la dernière fois, j'ai soutenu une thèse en économie urbaine. Donc je suis docteur en économie. Et ça me permet d'assurer une charge d'enseignement comme contractuel. En lycée depuis 3 ans maintenant, quoi.
Au niveau, j'allais dire personnel, tu es quelqu'un quelqu'un d'assez prolifique, je sais pas comment. Enfin, tu produis.
Je
Tu
produis
produis. J'aime pas ce mot-là, mais
à
tu
côté,
produis.
à côté de mon activité professionnelle comment on va dire, elle est plus qu'alimentaire, parce que c'est un beau métier, hein, et je m'y consacre. Mais donc je continue à écrire quoi, des textes, certains qui te plaisent plus que d'autres. Et entre autres, un projet d'écriture qui est un peu ma Madeleine de Proust à moi, quoi, qui s'appelle le Rumpelsbourg.
Qui veut dire?
Alors le Rumpelsbourg, ça vient du yiddish alsacien. Donc la langue judéo-alsacienne. Alors le mot en lui-même n'existe pas. Le mot qui existe en judéo-alsacien, c'est la Rumpelsnacht, la nuit de l'agitation, le remue-ménage, qui est cette Rumpelsnacht intervient à la fin de la Pâque juive, donc Pessah, le passage de la mer Rouge et la libération de l'esclavage d'Égypte. Les gens ont pour habitude, à la fin de la commémoration de cette fête, de cet événement, de tout ranger dans leur maison, la nuit même, à la fin de la fête, pour reprendre une vie séculaire et normale dès le lendemain, quoi. Donc ce remue-ménage, cette agitation de cette nuit de la Pâque, de la sortie d'Égypte, est commémoré par une tradition en Alsace chez les Juifs qui est de faire ce ménage, ce rangement, cette agitation. Donc moi j'ai intitulé ce livre le Rumpelsbourg, c'est-à-dire le livre de l'agitation ou le livre des remue-ménages, pas de remue-ménage, des remue-ménages pour évoquer mes souvenirs d'enfance et mes Madeleines de Proust à moi, c'est-à-dire les recettes familiales que je prends comme prétexte pour évoquer tous les souvenirs d'enfance et les anecdotes, les souvenirs familiaux qu'ils aient été vécus par moi ou qu'on me les ait racontés et que je me suis approprié à travers les récits qu'on m'en a fait et qui me constituent en tant qu'individu.
Donc c'est un mot qui t'appartient?
Le Rumpelsbourg, ouais, t'as raison, je devrais penser à mettre un copyright.
C'est un mot que vous utilisez de manière courante dans ta famille ou c'est toi uniquement qui l'utilise?
Le Rumpelsnacht, ouais, c'était utilisé par ma grand-mère. Hein. On parlait de Rumpelsnacht et par les Juifs alsaciens au moment de la Pâque juive. Mais Rumpelsbourg, non, effectivement, n'existe pas. Mais comme tu le sais, hein, toi qui écris aussi, et entre autres, et pas que. Hein, donc, enfin, la langue, elle est faite de réappropriation, de modification, d'analogisme,
On
de
se
comment.
réapproprie.
Voilà, ouais, on crée des nouveaux mots. Comment ça s'appelle ces nouveaux mots qu'on crée? Ce sont des. Oh, je perds mon vocabulaire quand je suis interrogé.
C'est pas grave. De toute façon, t'es pas interrogé. Oh.
C'est
Alors,
vrai.
est-ce que on se prête au jeu de la lecture?
Ben, volontiers, ouais.
Ouais.
Donc, par rapport aux propositions que je t'ai faites, je pense que le texte que tu aimais bien, ou du moins la partie du texte que tu aimais bien, c'était celle concernant les petits gâteaux.
Surprise, surprise, allons-y.
Ok. Donc j'en dirai pas plus. En tout cas, il s'agit de petits gâteaux. C'est un extrait, hein, je ne vais pas lire tout l'article. Les spécialités pâtissières de ma grand-mère Philomène, ma grand-mère paternelle, étaient nombreuses. Mes favoris, pas forcément pour leur goût, mais pour ce qu'ils signifiaient, étaient les petits sablés de Noël, les fameux bredel, ou plus précisément, Wienerbredel, petits gâteaux de Noël. Il y en avait une profusion, tant en quantité que par leur diversité. Anisbredel, Schwovebredel, Butterbredel, Kleierbredel, Sankollerbrot, Croquettel, Lapkeur. Mais rétrospectivement, ma préférence se porte sur les Zuckerrolle, les roulés au sucre. La recette n'est pas très compliquée. Et une fois la pâte préparée, il convient alors de rouler des boudins avec cette pâte, puis de les couper en diagonale afin d'obtenir des parallélogrammes bombés. Enfin, avant de les enfourner, ils seront entièrement recouverts de sucre cristal, tant dessus que dessous. Philomène était plus jeune que ma grand-mère Alice, ma grand-mère maternelle. Aussi, je me suis soucié moins tôt de la pérennité de son histoire et ce faisant de ses spécialités. J'avais 19 ans lorsque, très officiellement, je lui demandais de m'apprendre à faire les Zuckerrolle. Rendez-vous fut pris, je n'avais qu'à venir tel jour, à 10 heures, avant de partager le déjeuner. Elle s'occuperait des ingrédients et m'apprendrait en me mettant la main à la pâte. C'était encore la meilleure pédagogie. Au jour et à heure dit, j'arrivais chez mamie Philo. Tata Charlotte, la plus jeune des sœurs de mon père qui venait de la coiffer, et tata Béatrice, l'avant-dernière de la fratrie, qui comprenait 5 enfants, 2 garçons et 3 filles, étaient là. Sur la table en formica de la cuisine trônaient les ingrédients. Ma grand-mère me précisa qu'elle les avait sortis du frigo ou du garde-manger depuis le réveil, afin qu'ils soient tous à température ambiante et que le mélange se laissât bien malaxer. En effet, le beurre était tendre et avec les œufs, donnèrent le liant et l'élasticité de la pâte. Je crois que je n'ai jamais appris en étant aussi attentif et obéissant. Pas une fois je ne pris la parole, ne serait-ce que pour poser une question de précision. Je suivais chaque instruction à la lettre en attendant la suivante. D'une voix douce et confiante, mais sûre d'elle, Mame Maphilo me dicta ses instructions sous l'œil bienveillant de deux de ses filles. Maintenant, tu déverses la farine sur la table. Cela me réjouit de ne pas user de récipient. Et tu creuses un puits. Casse les œufs dans le puits. Découpe des dés de beurre que tu mets aussi dans le puits. Enfin, tu verses le sucre semoule dans le puits. Bon, maintenant avec tes mains, tu ramènes doucement la farine dans le puits et tu recommences à mélanger. Voilà, comme ça. Je continuais à mélanger jusqu'à obtenir une pâte lisse, selon les termes de ma grand-mère. La chose étant faite, elle sourit de contentement et d'approbation, et ses deux jeunes filles avec. Arrivait l'étape critique, couper des morceaux de la masse et les rouler en boudin. Elle n'en dit pas plus et me laissa faire d'un œil attentif. Si je n'avais pas été tout à mon affaire, j'aurais sans doute pu voir son visage passer d'une concentration attentive à ce que je faisais à une illumination de ses traits ridés par l'âge et sa dure vie de labeur. Les 3 premiers boudins ayant été préparés, elle manifesta sa joie pour son petit-fils. Vraiment, elle se réjouit que je le fasse bien, et il est difficile de rendre toute la tendresse qu'elle exprima alors par sa déclaration qui m'était tout entière destinée. Ça, je savais que ça, tu le ferais si bien. Cela lui faisait plaisir que je sache bien faire cela, et cela la réjouissait encore plus de me voir le faire si bien. Je crois que ce fut une des seules fois de ma vie où je pris conscience que je faisais quelque chose de bien et que je le sache. Mais modestement, tout en étant fier et content que cette qualité soit reconnue, a fortiori par une de mes grand-mères, de plus, une spécialiste est Zuckerroll.
C'est fini. Cet extrait est fini.
On peut s'arrêter là, ouais.
Okay. Je suis touché. Ce que j'aime beaucoup dans ce que tu écris, c'est que c'est entre guillemets un prétexte d'utiliser une recette de famille. Des recettes de famille pour faire ressortir le contexte familial et surtout les valeurs qu'il y a autour de cette famille qui sont amplifiées par les recettes et qu'on ressent tellement bien. C'est plein de chaleur, c'est plein de bienveillance et c'est humaniste, je trouve.
Ouais, humaniste, c'est le terme, tu as parfaitement raison, Lionel. Parce que j'allais dire, il ne s'agit pas d'idéaliser la famille, chaque famille a ses travers, et il ne s'agit pas de revenir là-dessus, il s'agit de prendre conscience à travers des souvenirs familiaux du bonheur que j'ai pu vivre quand j'étais enfant. Et d'en avoir conscience aussi, quoi. De le formaliser, de l'intégrer, d'arrêter d'être misérabiliste dans l'appréciation de sa vie et de se dire que j'ai quand même une putain de chance, quoi. Et cette chance, faut en faire quelque chose maintenant. Mmh. Et t'as raison de dire que c'est émouvant parce que moi-même, quand je relis ce texte, il y a des passages qui me donnent les larmes aux yeux. Alors c'est peut-être un petit peu exagéré parce que c'est moi qui écris ce texte, je devrais en être plus distancié, mais je dois dire que je suis très ému par ces souvenirs. C'est pas juste de la littérature, quoi. C'est pas juste des mots. C'est des mots qui évoquent des choses. Humaines.
Moi, je trouve ça tout à fait normal que ça puisse te faire revivre des émotions, du coup, d'avoir les larmes aux yeux en relisant ton texte, quoi. Ou même, je pense que ça peut être encore une fois amplifié quand tu le lis à voix haute, parce que ça n'a rien à voir. Quand tu le lis pour toi-même et quand tu le lis en lecture publique, quoi. C'est autre chose, c'est un autre exercice, mais tu le connais, cet exercice.
C'est vrai, ouais. On a fait un spectacle récemment, mais pour finir sur le Rumpelsbourg, du moins sur cet extrait, je crois que quand je l'ai écrit, j'avais des intonations déjà dans la tête. C'est comme si j'avais écrit à voix haute, un peu comme Flaubert avait son gueuloir. Bon, moi, mon gueuloir, il était dans ma tête, et ces intonations, je les avais, le rythme, je l'avais déjà, quoi, quand je l'écrivais, quoi.
Oui, tu imites ta famille, tu imites les voix.
Voilà, alors c'est plus qu'une imitation, c'est une tentative de restitution de la voix de cette grand-mère ou de l'autre grand-mère, quand je parle de l'autre grand-mère, qui sont maintenant disparues, quoi. Et c'est une manière de les faire revivre.
Avec toute cette émotion, je te fais la bise. Merci.
À bientôt. Ouais.